Ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec François Maréchal. Merci d'être venu pour nous parler de vos convictions, de votre engagement dans l'Église et dans la société. Vous êtes né à Paris, vous allez nous parler de votre enfance, mais sur le site, vous avez voulu vous caractériser, vous définir comme en recherche de sens, en recherche de l'émerveillement dans la vie. Et pour tout dire, nous étions connus en 2016 à l'Institut catholique lors d'une rencontre où il s'agissait de définir face au pessimisme ambiant, quelles ressources mobiliser pour la quête du bonheur. Dans cette période trouble d'endémie avec le coronavirus, c'est aussi la recherche du bonheur et de la paix intérieure qui vous anime.
Ben oui, merci. Merci de m'avoir invité, oui, tout à fait.
C'est... Donc naissance à Paris ?
Naissance à Paris, oui. J'ai vécu toute mon enfance à Paris, en face du jardin du couvent principal des Franciscains. Donc on était bien entourés, en fait, et dans une famille chrétienne. J'ai un frère jumeau, j'ai une sœur. Et j'ai fait mes études supérieures à Louis-le-Grand en ayant passé le bac en 68, ce qui était quand même un événement et qui m'a beaucoup marqué. Pas tellement de passer le bac, mais les événements de mai 68 que j'ai vécu en étant tout proche et qui nous a quand même beaucoup questionnés quand on était au lycée. C'était quelque chose d'assez étonnant. On était tous enthousiastes dans le groupe de copains, en tout cas, ce qui n'était pas le cas de nos parents.
Oui, oui, conflit de génération. Alors, tout de suite, une école supérieure
J'ai fait des
écoles de Lyon.
L'école centrale de Lyon, qui est une école de mécanique. Je n'ai jamais rien compris vraiment à la mécanique et ça ne m'intéressait pas, mais c'était une école où je pouvais aller en n'étant pas à Paris, parce qu'on habitait un petit appartement. Mon frère était resté là et ça commençait à me peser d'être à 5 dans un tout petit appartement.
Et là, un engagement dans une profession.
Et là, par hasard, j'ai rencontré un professeur d'économie des transports qui m'a fait prendre goût à un travail sur la mobilité. Maintenant, on dit mobilité, on ne dit plus transport. Donc, l'organisation de l'espace public pour la circulation, pour les piétons, pour les deux roues, pour les autobus, la définition des horaires, des itinéraires, le conventionnement des services par les collectivités.
Dans une coopérative.
Donc j'ai monté une coopérative en 1978 qui existe encore, qui s'appelle ITER, et qui travaille pour les collectivités et pour aussi des entreprises privées sur ces problèmes-là.
Faciliter les transports entre les personnes.
Faciliter et puis surtout répondre aux obligations qu'ont les collectivités d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse se déplacer. Et de faire en sorte aussi qu'on ait le moins possible de pollution, ce qui est quand même très, très compliqué.
C'était déjà en avance à l'époque ?
C'était en avance à l'époque, la pollution, ça n'existait pas. Enfin, ce n'était pas cette question-là. Aujourd'hui, c'est même dans les textes réglementaires une obligation pour les collectivités de réduire l'émission de gaz carbonique, de dioxyde de carbone dans les transports dont ils ont la responsabilité.
Puis à côté de ça, vous avez très vite pris des engagements comme bénévole dans le comité contre la faim et pour le développement. Terre solidaire. Il n'y avait pas encore le terme de terre solidaire, mais c'est aussi une question de solidarité.
J'ai été en fait frappé par Agronome de la faim, un livre de René Dumont qui est sorti en 1980, je crois, ou quelque chose comme ça. Et puis, quand j'ai fini par m'intégrer réellement au CCFD, au-delà de donner de l'argent temporairement, quand j'ai intégré la paroisse Saint-Esprit et que j'ai vu qu'il y avait une équipe CCFD sur le doyenné de Toulouse, rive gauche. Donc j'ai intégré cette équipe, j'en ai même été responsable pendant quelques années, puis après, comme ça tourne, je n'y suis pas resté tout le temps responsable.
Ma foi, j'y crois. C'est un engagement pour les autres, donner du temps.
Oui. Ben, donner du temps et puis des idées, ouais. Essayer de savoir ce qu'on peut faire. C'est C'est pas simple parce que le CCFD, c'est surtout des actions à l'extérieur. Et pour que les gens s'y intéressent, pour qu'ils voient comment eux, ils peuvent agir et en quoi ça les rejoint, c'est pas très simple. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus simple. Avec la mondialisation, avec le fait qu'on voit bien que si on achète des vêtements et qu'ils sont fabriqués au Bangladesh, on peut avoir comme conséquence tout les catastrophes qu'on a connues avec une usine qui s'est effondrée et qui a brûlé. On peut voir aussi que si on utilise des matériaux, des métaux qui sont exploités en Afrique par des enfants qui sont à peine payés et qui travaillent à main nue dans des roches, ça provoque aussi des catastrophes et qu'il y a bien quelque chose à faire, mais où, comment, c'est pas si simple.
Une interrogation à l'époque, je me rappelle, je crois que c'était le slogan « Mieux se nourrir ici pour vaincre la faim là-bas ».
Oui.
C'est déjà ce que dit le pape dans Laudato Si, tout est lié.
Tout à fait, oui. Et aujourd'hui, le slogan du CCFD qui sort juste il y a quelques semaines, même pas une semaine je crois, c'est « Le système n'a pas d'âme, nous, si ». Ce qui, moi, me semble parfaitement exact et fondamental. Effectivement, le système dans lequel on vit n'a pas d'âme. Le système est basé sur l'argent, donc l'argent il n'a pas d'âme.
Et puis éthique sur l'étiquette.
Éthique sur l'étiquette
pour
aussi.
Vérifier
oui.
D'où viennent les produits
oui,
et est-ce
fait,
qu'il
n'y
a
oui.
pas exploitation d'enfants à l'autre bout
oui.
du monde pour que les prix soient plus bas. Donc recherche de sens également. Oui. Alors au niveau d'une paroisse.
Tant que j'étais avec mes parents, on allait à la messe tous les dimanches, je suis allé au catéchisme. Quand j'étais étudiant, j'avais rejoint l'aumônerie étudiante et j'ai rencontré beaucoup de copains et on était vraiment un groupe soudé. Après, quand j'ai commencé à travailler à Toulouse, le week-end, c'était pour aller faire du ski ou pour aller faire des randonnées en montagne, c'était pas pour aller à la messe. La plupart de mes copains, d'ailleurs, n'allaient plus même à la messe chez eux, avec leurs parents. Moi, si, quand je rentrais voir mes parents à Paris, j'allais à la messe avec eux. Et puis un jour, j'ai mis les pieds par hasard à la paroisse Saint-Esprit, qui n'était pas très loin de chez moi. J'avais peur d'y rentrer, comme dans beaucoup d'autres paroisses, parce que, en fait, quand on a 30 ou 40 ans, qu'on rentre dans une église, on voit que beaucoup de vieilles, pas beaucoup de vieux, mais beaucoup de vieilles, ou que des familles avec des enfants, et puis des gens de 40 ou 50 ans, quelques femmes, mais pas d'hommes. Donc moi, je ne me sentais pas vraiment à l'aise dans la plupart des églises où j'ai essayé de mettre les pieds, sauf des fois le dimanche, la grande messe aux Dominicains, parce que là, il y avait tellement de monde que de toute façon, on passe complètement inaperçu. Et là, par hasard, j'ai mis les pieds dans cette église, et depuis, j'y suis resté. J'ai eu des responsabilités, j'en ai encore, elles évoluent, parce que c'est une paroisse...
Au Mirail, où il y a beaucoup d'étrangers,
c'est pas au Mirail,
des
c'est à Bagatelle,
à côté.
En fait. Il y a
oui,
beaucoup
oui.
d'étrangers,
oui.
Mais c'est surtout que Henri Auger, le curé qu'on avait à l'époque où j'y suis rentré, il donnait la parole à tous les paroissiens, à chaque célébration, et ça créait vraiment des liens, et on a réussi à continuer, malgré les changements de curé, à maintenir les liens entre paroissiens, à faire que les gens discutent avant la messe, à faire que beaucoup de gens restent après la messe à discuter, à faire qu'il y ait toujours des échanges régulièrement pendant la messe entre paroissiens.
Et on peut parler de ces états d'âme, de ces difficultés à se situer dans l'Église, avec donc cette question particulière d'une éthique de la situation que l'on peut ressentir.
De toute façon, la difficulté dans l'Église, c'est qu'il n'y a que deux modes de vie. Il y a être consacré, religieux, religieuse ou prêtre, et laïque en ayant une famille et des enfants. Quand on n'est pas ni l'un ni l'autre, on ne nous en parle jamais. C'est quasiment jamais l'objet dans les homélies ou nulle part. Alors aujourd'hui, ça change un peu, donc... Il se trouve qu'à la paroisse Saint-Esprit, j'ai eu la chance une année, il y a le groupe de l'association David et Jonathan, qui est une association de chrétiennes et de chrétiens homosexuels, qui a demandé une salle pour se réunir une fois par mois à la paroisse. Et le curé a accepté, après une discussion compliquée en conseil pastoral dans lequel je faisais partie. Et j'ai mis 2 ans à me dire, ça me concerne et je vais y aller. Donc, parce que du coup, les paroissiens allaient se dire, tiens, il va là, qu'est-ce que c'est, etc. Donc, c'est toujours très compliqué.
David et Jonathan, tout le monde ne connaît pas ici. Alors peut-être que il faut dire, c'est, on va dire, une des mouvances de ce qu'on appelle LGBT, lesbienne, gay, bisexuel ou même trans. Non, pas tout à fait.
C'est pas une mouvance. C'est la première association qui s'est créée dans le milieu des personnes homosexuelles, lesbiennes, gays, à l'époque par des gens qui étaient quasiment tous à Paris. La moitié des fondateurs étaient des prêtres. Qui étaient concernés directement par la question, qui voulaient sortir du placard. Ensuite, rapidement, le sida a fait que les adhérents de l'association se sont fortement investis dans l'aide aux malades, l'accompagnement. À l'époque, dans les années 80, les gens y mouraient assez beaucoup. Bon, aujourd'hui, heureusement, c'est plus la même chose. Et puis finalement, c'est une association qui regroupe des chrétiens, pas tous catholiques. Il y a un quart de protestants et à la moitié des adhérents catholiques. Et puis un quart de gens qui ne se reconnaissent dans aucune religion, mais qui sont d'accord pour participer. À Toulouse, on vit des temps de partage, des partages sur un texte de la Bible ou sur un sujet. On a un accompagnateur qui est un prêtre jésuite qui participe avec nous. Pas forcément toujours, parce qu'il faut qu'il ait le temps et qu'il soit disponible dans son agenda. Et puis on fait des sorties, on essaye de faire des activités conviviales également.
C'est pour ça que vous nous avez choisi sans doute ce chant, ce beau chant de Pierre Eliane qui reprend la prière de Thérèse de Lisieux pour supporter l'exil de la vallée de larmes. Et voilà mon ciel à moi.
Pour supporter l'exil de la vallée des larmes, il me faut le regard de mon divin sauveur. Ce regard plein d'amour m'a dévoilé ses charmes. Il m'a fait pressentir le céleste bonheur. Mon Jésus me sourit quand vers lui je soupire. Alors je ne sens plus l'épreuve de la foi. Le regard de mon Dieu, son ravissant sourire. Voilà mon ciel à moi. Mon ciel est de pouvoir attirer sur les âmes. Sur l'église, ma mère, et sur toutes mes sœurs, les grâces de Jésus et ses divines flammes, qui savent embraser et réjouir les cœurs. Je puis tout obtenir lorsque dans le mystère je parle cœur à cœur avec mon divin roi. Cette douce oraison tout près du sanctuaire. Voilà mon ciel à moi.
Ma foi, j'y crois. Avec Benoît Petit.
Ce soir, avec François Maréchal. Pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, vous vous définissez comme la recherche du sens, l'imprévu et l'émerveillement. Merci pour avoir choisi cette prière de Thérèse de Lisieux. Nous sommes au moment où nous enregistrons l'antenne sur la neuvaine de Thérèse de Lisieux et de Daniel Broutier. Pourquoi Pierre Eliane ?
Alors, Pierre Eliane, c'est parce que je trouve que sa voix, enfin en tout cas son interprétation, on sent qu'il est habité par le texte, la musique aussi qu'il a composée. Et puis ce texte, voilà mon ciel à moi, le passage qu'on vient d'entendre, c'est d'aller raccrocher les âmes pour qu'elles s'approchent de Dieu. Et pour moi, voilà, pour moi aujourd'hui, attirer. C'est ça. Pour moi, c'est ça. La vie, c'est d'essayer de raccrocher des âmes, de les faire venir à Dieu. Alors, les faire venir à Dieu, c'est peut-être pas si simple, mais en tout cas, de développer l'aspect spirituel, d'essayer d'avoir un échange au niveau de spiritualité. Et depuis très longtemps, c'est ce que j'essaye. Dans mon travail, quand on embauchait des jeunes, j'essayais, quand on avait l'occasion de manger ensemble, puisqu'on partait souvent à deux ou trois en déplacement, d'amener la conversation sur des sujets spirituels. Et comme ça, j'ai réussi à discuter de sujets profonds avec un certain nombre de mes collègues qui n'en discutaient jamais. Même un dont le seul sujet d'intérêt était le football, que j'ai réussi à faire qu'un jour, il ne regarde pas un match qui était important en disant ben, « allez, je vais discuter avec toi ». Donc j'en étais très fier, mais... Donc voilà. Donc pour moi, c'est la recherche de sens dans ma vie. Quand on ne se sent pas reconnu dans la société, dans l'Église, on est obligé de se poser la question du sens, alors, de chercher dans les Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Etc. Donc...
Thérèse dit, mon ciel, c'est de pouvoir attirer sur les âmes ou les âmes sur l'Église, mais elle dit aussi, c'est Jésus, en Jésus je souris. Donc, alors, oui. La Bible, Jésus, c'est pour vous un lit de méditation.
Oui, alors la Bible, je ne la connais pas par cœur, parce que c'est un peu trop long et un peu compliqué à lire. Mais,
très disparate.
Et très disparate. Jésus, je connais l'Évangile beaucoup mieux, les Évangiles. J'ai lu beaucoup de choses sur Jésus. Le livre qui m'a le plus éclairé ces dernières années, c'est le livre de Pagola qui s'appelle Jésus, approche historique, qui remet les choses à leur place, donc d'un point de vue historique. Et moi, j'aime beaucoup tout ce qui est histoire, en fait. Ça explique, en fait, ça donne un sens. Pourquoi les choses sont comme ça? Pourquoi est-ce qu'il y a eu telle chose qui a été dite ou faite?
Avec aussi la nécessité, à côté de l'engagement comme bénévole aux CCLD, de temps de retraite avec une personne qui fait la retraite d'Ignace. Vous, c'est pour la contemplation de la nature.
Moi, ça fait 19 ans, oui, que je pars en montagne, en Cerdagne. On est chacun seul sous la tente. Des fois, on est deux, mais des fois, on est trois, on est quatre. Et on se retrouve que le soir pour échanger. En fait, on s'accompagne mutuellement. Et c'est toujours des moments... vraiment privilégié. La nature, elle est superbe.
Vous avez choisi d'ailleurs sur le site de l'émission un lever de lune.
Un lever de lune sur la crête qui sépare la France de l'Espagne en Cerdagne. Oui.
Émerveillement. Oui. Mais recherche de mystère. Oui, Thérèse alors. Nous dit, c'est « Je puis tout obtenir lorsque dans le mystère, je parle cœur à cœur avec mon divin roi. »
Tout à fait, oui.
Quel programme !
Oui, ben moi, j'en suis pas encore là, hein, malheureusement, mais bon. Mais l'émerveillement, c'est la dernière découverte, c'est Maurice Handel. Donc, cet été, j'ai travaillé sur ces textes. Et effectivement, l'émerveillement, celui sur la nature, mais sur les gens, sur les choses qu'on voit, les rencontres, c'est le début de la connaissance profonde de ce qu'est Dieu et que le royaume, il est présent. J'avais aussi dit l'imprévu, parce que pour moi, dans un boulot où on est obligé d'être organisé, de prévoir les choses, une réunion à tel endroit, etc., de travailler sur l'imprévu, ça a été un chemin très intéressant. Et quand je suis rentré à la paroisse Saint-Esprit, le curé Henri Auger nous avait souvent parlé de ça. Faites attention à l'imprévu, Dieu il est là dans l'imprévu, il n'est pas dans tout ce que vous prévoyez, il y sera aussi peut-être, mais cherchez l'imprévu.
L'autre nous dérange ou nous stabilise parfois, ou on va dire toujours. Alors, je demande à tout le monde, laïcité, témoigner, ça ne veut pas dire qu'on va convaincre l'autre. Nous sommes à l'écoute de ce qu'il dit.
Ah oui, convaincre l'autre, c'est pas du tout évident du tout. C'est être à l'écoute. Pour moi, mon engagement chrétien, il est aussi dans le monde, à l'extérieur de l'Église. Je suis dans le conseil d'administration d'Élémentaire, c'est une association qui prête de la vaisselle et qui aide les organisateurs de concerts, de festivals ou de manifestations à être responsables, éco-responsables. C'est quelque chose, la paroisse d'ailleurs Saint-Esprit a un moment loué sa vaisselle pour tous les repas paroissiaux, après elle a acheté de la vaisselle, elle n'en loue plus. Mais ça me semble important d'être en tant que chrétien là. Et vous parliez du milieu LGBT. J'ai été responsable au conseil d'administration de l'association Arc-en-Ciel qui regroupe différentes associations. Et à chaque fois, la présence d'un chrétien, les gens ils sont contents en disant « Mais quand même, c'est bien ce qu'on pense de, ce qu'on, on pense de la foi chrétienne, c'est d'être ouvert aux autres, d'être avec les autres. » Et de chercher à être avec eux et pas de vouloir les comprendre ou les faire changer.
Arc-en-Ciel est maintenant reconnu à Pignon-sur-Rue. Il y a une maison à Toulouse, beaucoup de discrimination, beaucoup de souffrance et de jugement du regard des autres.
Il y a beaucoup de souffrance sur la ligne d'écoute de David et Jonathan. On a beaucoup de gens, on a une dizaine de personnes dans l'année qui appellent et qui sont en souffrance et qui en plus nous disent « Moi, j'ose pas mettre les pieds dans une église à laquelle je pourrais aller à Toulouse. » Donc, quelque part, il y a une souffrance. Et des préjugés aussi sur l'église de la part de ces personnes-là.
À plus forte raison, lorsque la réunion à l'Institut catholique où j'avais évoqué, il y a des personnes qui demandent à changer de sexe, qui sont mal dans leur peau et qui arrivent à trouver, après beaucoup de temps de recherche, un certain équilibre.
Ouais, ça c'est quand même... on ne peut pas comprendre. Enfin, moi je ne peux pas comprendre, mais je ne peux que constater que c'est comme ça.
Alors,
c'est irrépressible en fait.
Un mot qu'on parle, dont on parle souvent, des sociologues, des théologiens, de dire il y a une morale naturelle. Et pourtant, beaucoup d'anthropologues, d'ethnologues, de médecins disent non, c'est quoi la nature? On ne sait pas. Il faut à la recherche d'un équilibre, d'une acceptation de son corps, une acceptation du regard de l'autre.
Pour moi, c'est chacun est comme il est et Dieu l'a fait comme il est. Donc pourquoi est-ce qu'il devrait changer? Donc on peut pas aller contre sa nature de toute façon. Il y a une manière. Chacun a se construit sa personnalité, son être, son corps de manière différente. Mais c'est absurde de dire que on peut changer de la nature.
Et mobiliser toutes ses ressources justement pour la quête du bonheur ou d'un équilibre.
Et alors, un des sujets aussi aujourd'hui dans lequel je me suis impliqué, c'est à l'initiative des Petits Frères des Pauvres. Les Petits Frères des Pauvres accueillent beaucoup de personnes qui sont des hommes ou des femmes gays ou lesbiens qui se retrouvent seuls, sans enfants, sans famille. Et donc, y en a une bonne part, quoi. Et donc, y a une association à l'initiative des Petits Frères des Pauvres qui s'est créée pour essayer de voir ce qu'on peut faire pour ces personnes-là, pour qu'elles puissent trouver des lieux d'habitat ou quelque chose comme ça. Elle s'est lancée juste avant le Covid, donc elle n'a pas fait grand-chose depuis. Mais ça me semble important aussi de penser à ça.
D'avoir des modèles positifs pour repartir dans la vie des échecs ou après des moments de souffrance. Oui. Alors, vous aviez pensé à un moment de prière à la fin, mais je crois que nous avions réfléchi ensemble et que vous disiez toujours d'ailleurs... Thérèse de Lisieux, cette parole de Jean 23, rien qu'aujourd'hui.
Oui, rien que pour aujourd'hui, oui.
J'essaierai de vivre exclusivement la journée sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie. Aujourd'hui. Aujourd'hui, je serai heureux, rien qu'aujourd'hui, sur la certitude d'avoir été créé pour le bonheur, non seulement dans l'autre monde, mais également dans celui-ci. Vous contribuez à la construction du royaume de Dieu.
Oui, puis c'est aujourd'hui. On ne construit pas demain, on est aujourd'hui et on est présent, c'est-à-dire on n'est pas sur son téléphone, sur des tas de choses de rêverie ou de choses qui, en fait, sont en dehors de la réalité d'aujourd'hui, quoi. Pour moi, c'est l'effort principal que moi, j'essaye d'avoir et quand je peux en discuter avec d'autres, je le fais.
Ne pas attendre le ciel, mais
le
être
ciel,
à
il
sa
est
place.
Ici, mon ciel à moi.
Très bien. Merci en tout cas pour vos convictions, pour votre foi. Merci aussi à Christophe pour avoir permis cet enregistrement. À bientôt. Au revoir. Au revoir François.
Au revoir Benoît.